Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit, ravi de vous retrouver cette semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur nos différentes plateformes, je vous en remercie. En octobre dernier, nous avons battu un record d'audience qui était celui de septembre. Et je vous remercie d'apprécier nos émissions et d'être de plus en plus nombreux à nous écouter, à les partager également. En partageant nos émissions, vous nous permettez de toucher de nouveaux auditeurs, de nouvelles personnes intéressées par ces sujets militaires, défense, géopolitique et histoire. Et puis, en vous abonnant à Conflit, vous nous permettez de développer la revue, de vous proposer aussi ces contenus en accès libre, donc en vous abonnant ou en faisant connaître Conflit, en encourageant aussi à vous abonner, à abonner vos proches à la revue. C'est la meilleure manière de nous soutenir. Vous pouvez vous rendre sur le site de Conflit, revueconflit.com, pour retrouver la page consacrée aux abonnements, ainsi que les anciens numéros ou numéros actuels qui sont en vente sur notre boutique en ligne, avec pour le numéro actuel, un dossier qui est consacré à la mer de Chine et aux relations pour le moins compliquées entre la Chine continentale et Taïwan. Alors cette semaine, nous allons évoquer un sujet particulier des forces militaires françaises, à savoir les forces spéciales. C'est un nom dont on parle souvent, qui revient régulièrement parce que elles font peut-être un petit peu rêver par rapport à leur engagement, par rapport aux missions particulières qu'elles ont à pratiquer. Nous allons essayer, au cours de cette émission, d'expliquer ce qu'elles sont, comment elles sont organisées, comment elles fonctionnent, et puis aussi comment on peut y entrer, quel entraînement il faut suivre pour y entrer et pour parler de cela. Je reçois cette semaine un militaire qui est donc dans ses forces spéciales, Matt. Bonjour. Merci Bonjour. Beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Conflit. Alors, on a compris que vous intervenez sous pseudonyme, ce qui est tout à fait compréhensible. Et vous publiez chez Pierre de Taillac un ouvrage qui est consacré au sujet des forces spéciales, Objectif Force Spéciale. Alors, comme tous les ouvrages de Pierre de Taillac, nous faisons régulièrement des émissions autour des ouvrages de cette très belle maison d'édition. Comme tous les ouvrages, il est extrêmement bien mis en page. Il y a de très belles photos, de très beaux dessins aussi. Ce sont toujours des ouvrages très soignés, avec une grande qualité à la fois du texte et de l'iconographie, de la mise en page. Et là, on a un ouvrage qui est un peu particulier parce que, alors, vous parlez des forces spéciales et on va y revenir. Mais vous donnez aussi quelques éléments sur la manière dont un jeune Français voudrait intégrer ses forces spéciales, quelques éléments sur les entraînements, sur les modes de vie à suivre aussi bien physique que mental. Enfin, nous allons y revenir. C'est une sorte de petit manuel pour entrer, pour se présenter peut-être au test des forces spéciales. Alors, première question pour commencer, sur ces forces spéciales, quelles sont-elles exactement? Parce que le mot ou l'expression est souvent employée, mais pour nos auditeurs qui ne sont pas très au fait des sujets militaires et de la manière dont l'armée française est organisée, qu'est-ce qu'on entend exactement par forces spéciales? Comment sont-elles rattachées à l'armée et quelle est leur fonction?
Alors, bonjour à tous encore une fois, hein, merci de me recevoir. Alors, les forces spéciales sont rattachées au sein du COS. C'est le commandement des opérations spéciales. Lui est rattaché sur Paris. Et chaque entité, c'est-à-dire l'armée de l'air et de l'espace, la marine et l'armée de terre, et aussi la gendarmerie, on a au sein de ces unités, chaque unité a des forces spéciales. Moi, je fais partie des forces spéciales de la marine nationale. Et on est organisé sous forme de plusieurs commandos, donc en commando de Parfatigno, Jaubert, Montfort, Trépel, mais aussi le commando Hubert. Et on participe à des missions du COS au sein en tant qu'unité de force spéciale. Voilà, en quelques mots, comment je peux l'expliquer.
Le commando Hubert, ce sont les fameux bérets verts.
Alors, on est tous bérets verts dans la marine. Ce béret vert, il nous vient des Anglais, tout simplement. du camp de Aknakari pendant la préparation de la Seconde Guerre mondiale. Les Anglais ont formé les 177 commandos du commando Kieffer. Et à la suite de cette formation, ils ont reçu le béret vert. On porte la pucelle à gauche et le béret sur la droite, comme les Anglais. On est le seul en France à le faire. Et ce sont les commandos marines des forces spéciales de la Marine nationale qui ont ce béret vert sur la tête.
Donc votre histoire, enfin votre origine, c'est la Deuxième Guerre mondiale et c'est cet entraînement du commando Kieffer qui compte parmi les seuls Français à avoir débarqué le 6 juin.
Oui, exactement. Ils étaient comme le prix du livre, notamment. J'en parle maintenant parce que ça me vient. Le prix est à 17,70 €. C'est un petit hommage pour les 177 commandos qui ont débarqué le 6 juin 44. Oui.
Donc il n'y avait pas de force spéciale ou pas de cette manière-là auparavant dans l'armée française. Ça commençait à se mettre en place avec la Deuxième Guerre mondiale et ensuite évidemment des évolutions par rapport aux évolutions des combats aussi, je suppose, tout au long du XXe siècle.
Ah oui, totalement. Les forces spéciales sont en perpétuelle innovation et on essaye d'anticiper les futurs combats. Et ça, c'est la charge de nos amiraux, de nos généraux, d'anticiper tout ça.
Alors comment sont recrutés les membres des forces spéciales? Alors c'est l'objet de votre livre justement, mais nous rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que c'est un recrutement de militaires déjà en activité qui bifurquent vers les forces spéciales ou est-ce qu'on entre directement, enfin on passe de l'état civil à l'état force spéciale, si je puis dire?
Alors dans la marine, oui, on peut faire cette bascule directe. Par exemple, c'est mon cas, je suis arrivé dans la marine en décembre 2002, donc sorti tout droit de chez mes parents, tout simplement. Et bah, 6 mois après, j'ai pu intégrer les forces spéciales, c'est-à-dire que j'ai signé mon contrat en décembre 2002, j'ai eu une formation initiale de marin, puis j'ai intégré le stage commando, qui lui dure environ 3 mois. Et à la suite de ça, j'étais béret vert, j'étais force spéciale de la marine française.
Et pour d'autres, en revanche, il y avait des gens qui sont déjà militaires et qui, en cours de carrière ou au début de carrière, bifurquent vers ce domaine-là?
Oui, exactement. Ensuite, il y a plein de choix possibles. Mais la plupart du temps, c'est vrai que ce sont des militaires qui ont une certaine expérience, au moins 3 ans d'expérience, qui sont ensuite sélectionnés sur dossier et proposés à différents stages pour intégrer petit à petit des unités d'élite, des unités de force spéciale. Notamment, on peut parler du premier RPMA. Donc, on peut pas arriver comme ça du jour au lendemain au premier RPMA. Il faut passer d'abord par un régiment, ensuite faire ses preuves et ensuite, voilà, proposer sa candidature pour intégrer un régiment d'élite de forces spéciales.
Bien, vous en parlez, on a quelques anciens stagiaires de conflit qui sont en train de passer la formation. Donc voilà, s'ils nous écoutent, ils verront, pour prendre quelques éléments de ce que vous dites, justement, vous donnez vous présentez les étapes de la formation et puis vous donnez un programme de préparation physique à cela, alors qu'un programme très sportif, évidemment, on le comprend, mais aussi une dimension, je dirais, mentale, psychologique. On peut-être commencer par celle-ci, parce que, bon, on imagine bien évidemment qu'il faut être en très bonne condition physique pour les opérations que vous devez mener, mais vous insistez aussi beaucoup sur la question mentale et sur la manière de gérer le stress, les difficultés psychologiques qu'il peut y avoir. Comment justement on se prépare à ces éléments-là, si jamais on peut s'y préparer par ailleurs?
Oui, alors c'est tout à fait le sujet du livre. À l'époque, quand j'avais 19 ans et que j'ai voulu intégrer les forces spéciales, il n'y avait pas tout ce qui était Internet, toute l'information qu'on peut avoir à droite et à gauche. Toute personne de 19 ans n'est pas psychologiquement préparée à toute épreuve. On l'apprend au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des missions, des échecs, des réussites. Et voilà, c'est pourquoi moi j'ai voulu faire ce livre, c'est pour préparer les plus jeunes, grâce à mon expérience, et ben en fait de leur indiquer des actions à réaliser, des entraînements psychologiques à faire, des mises en situation mentales à imaginer, tout simplement pour être prêt mentalement, comme un sportif de haut niveau qui se prépare mentalement avant une grosse compétition.
Et justement, sur ces exercices que vous proposez, qu'est-ce qui vous paraît important dans la préparation mentale?
Alors, ce qui me paraît vraiment important, c'est vraiment de visualiser. On ne peut pas s'entraîner à on peut pas, quand on a 19 ans, 20 ans, on se prépare à rentrer dans les forces spéciales. C'est bien de mettre ses baskets et de courir quand il pleut, etc. Mais il faut pas oublier de visualiser. Moi, j'ai essayé depuis tout petit de visualiser grâce à mon père. Il m'a beaucoup conseillé, qui est un ancien militaire également. C'est si je fais quelque chose, il y a toujours un but derrière tout ça. C'est-à-dire que si je prends mes baskets et je vais courir, en fait, il faut que je m'imagine dans la situation le jour où j'aurai un instructeur qui est à côté de moi, qui est en train de peut-être me crier dessus, peut-être que je suis dernier, donc il faut que j'accélère. Enfin voilà, il faut. Pour moi, c'est la visualisation qui est très importante. Ensuite, il faut. Oui.
Oui, la visualisation, ça veut dire savoir pourquoi on fait les choses, c'est ça, ou pour quel objectif?
Oui, exactement. Il faut toujours mettre un but à quelque chose. Par exemple, si on s'entraîne, si les jeunes s'entraînent à monter des cordes, pour nous, c'est une sélection très, très sélective, justement, la montée de ces cordes. On peut s'entraîner à monter des cordes, mais il faut toujours se mettre dans les meilleures situations possibles. Du coup, on visualise, on se prépare même au niveau de ses habits, tout simplement. Le jour J, je serai habillé comment? Du coup, ça sert à rien que je m'habille en short ou en basket et en t-shirt, parce que le jour J, je serai en ranger, c'est treillis, donc ça va être totalement différent. Voilà, il faut visualiser et aussi anticiper ce qui va se passer.
Et puis vous dites également, donc dans la préparation mentale, il y a l'importance de la confiance en soi, qui est aussi tirer profit des échecs qu'on a pu avoir, mais aussi se concentrer sur les réussites ou sur les éléments où on a bien fait les choses.
Oui, totalement. C'est là on arrive dans le cœur du livre. Hein. Le cœur du livre, c'est vraiment ça, la confiance en soi, le leadership, la gestion du stress, mais aussi le courage. Donc la confiance en soi, on en parlait juste avant, pour être fort mentalement, il faut absolument avoir confiance en soi. On peut pas être fort mentalement et ne pas avoir confiance en soi, tout simplement. C'est impossible. Mais dans le livre, en fait, j'explique comment j'ai réussi à avoir confiance en moi. Tout simplement en effectuant je me donnais des petites missions en fait de tous les jours. J'allais aujourd'hui je fais ça, et tant que j'ai pas réussi à faire ça, aller voir quelqu'un, discuter avec quelqu'un que je connais pas, des petites missions en fait, tout simplement, hein, aller voir quand on a 19 ans, on sait pas trop quoi faire, on va voir des gens des recruteurs par exemple. Moi j'ai pas hésité un jour à prendre mes petites baskets et aller voir le football club de Lorient. Et j'ai réussi à aller discuter avec l'entraîneur adjoint. Voilà, ce sont des actes qui m'ont permis d'acquérir une confiance en moi. Donc il y a ces actes, il y a aussi le dialogue intérieur. Il faut, si on veut avoir une forte confiance en soi, il faut en fait se persuader soi-même. Du coup, les dialogues intérieurs sont très importants. Et je l'ai expliqué avant, hein, des visualisations positives. En fait, il faut s'imaginer en train de réussir la chose, faut visualiser toutes choses positives qui pourront nous donner un peu plus de confiance.
Il y a un autre élément sur lequel vous insistez aussi, c'est le leadership, donc la capacité à gérer une équipe, à entraîner une équipe derrière soi. Ça, c'est évidemment très important. Alors, c'est valable pour vous, mais aussi pour toute personne qui a une équipe, quelle qu'elle soit, à gérer. Comment est-ce que ça se travaille, ça aussi, ces vertus du chef?
Oui, bah complètement. C'est une des vertus, on va dire, du chef, mais aussi nous, on essaie de le déceler tout de suite chez les plus jeunes. On a besoin de leaders chez nous, mais avec toute l'humilité qui va avec. Pour nous, un leader, c'est vraiment une identité. On devient leader, mais avant tout, pour moi, enfin, je le pense, c'est une identité. C'est une des qualités les plus importantes pour réussir chez les forces spéciales. En fait, on a tous besoin, un jour ou l'autre, d'une personne assez forte mentalement pour nous guider dans des moments difficiles. Moi-même, j'en ai fait l'expérience. Il y a des moments où c'était compliqué et il y avait quelqu'un d'un peu plus fort que moi et qui était à ce moment-là un peu plus lucide et du coup leader sur l'exercice. Et il suffit de regarder ces leaders et tout de suite, c'est un petit peu plus facile. Alors, comment devenir leader? En fait, je le répète, c'est une identité, mais il faut savoir avant tout écouter les autres. C'est très important. Il faut être ambitieux, il faut avoir des objectifs élevés. Il faut être quand on le décide, quand c'est le bon moment, il faut être décisif. Il faut être aussi exemplaire. Et voilà, il faut savoir communiquer sa passion. Par exemple, pour moi, la passion, c'était mon métier hein, de commando marine, force spéciale, et un bon leader. Mon ancien chef de groupe, quand je suis arrivé au commando Jobert, il a réussi à faire ça tout de suite. Il m'a communiqué sa passion et tout de suite, ça m'a permis, moi aussi, d'acquérir un peu plus d'expérience. Et il a réussi à... Voilà, la dernière des qualités, je dirais, le leadership, c'est savoir fédérer autour de soi.
Et puis, aussi, la capacité à connaître les personnes qui nous entourent, non? Et à savoir aussi en tirer le meilleur profit. Enfin, les aider à se développer elles-mêmes.
Oui, complètement. Vous avez raison. C'est d'abord écouter les autres et puis aussi savoir déceler les gens qui sont autour de nous, savoir à qui on a affaire tout simplement, parce qu'on a beau être 10, 15 dans un commando d'élite, c'est toujours un petit peu compliqué les premiers temps quand on travaille ensemble, parce qu'il faut simplement apprendre à se connaître. Et donc, ça passe par l'écoute. Faut casser les barrières, aller vers l'autre. Faut réussir à communiquer un maximum avec tout le monde.
Alors, dans votre ouvrage, vous parlez beaucoup de l'entraînement individuel, mais quand vous êtes en opération, vous êtes une équipe, même si vous l'avez dit, c'est une petite équipe, une dizaine de personnes. Vous vous entraînez aussi, je suppose, en équipe pour répéter les opérations et avoir les gestes adéquats au bon moment.
Oui, complètement. Souvent, en fait, pour nous, une journée, on va dire comme ça, une journée est rythmée de cette façon, c'est-à-dire que le matin, c'est plus un entraînement individuel au niveau du sport et au niveau de la préparation du matériel, etc. On est tous ensemble, mais on s'occupe de soi. Et ensuite passe l'après-midi, où là, en tant qu'ancien chef de groupe, j'avais l'habitude d'organiser des gros exercices l'après-midi sur un espace-temps de 2 heures, où on répétait nos gammes, où on réalisait des missions jusqu'aux gestes les plus techniques, et tous ensemble. Et si quelque chose n'allait pas, on le répétait. Et bien sûr, aussi, de temps en temps, on faisait les mêmes missions de nuit.
Alors, votre particularité dans les commandos marines, c'est d'aller du ciel jusqu'en profondeur, puisque vous faites à la fois des sauts parachutistes et de la plongée. Donc, ça vous donne une appréhension des différents milieux et de différentes techniques aussi à maîtriser. On va revenir sur la plongée et sur les caractéristiques, mais peut-être commençons par le saut en parachute, parce que c'est ce qu'il y a de plus visible pour celui qui vous voit effectuer. Vous donnez quelques éléments sur le saut en parachute dans l'ouvrage qui est intéressant. Vous dites qu'on perd 7 degrés tous les 1000 mètres d'altitude. Donc, quand vous sautez à 4000 mètres, c'est la plupart du temps les températures négatives. Ce qui veut dire aussi qu'il faut être habillé en conséquence et supporter ces changements extrêmement rapides de température. Et puis aussi avoir le matériel, c'est-à-dire que vous ne sautez pas seul, enfin vous sautez aussi avec vos outils ou ce qui est nécessaire pour votre mission. Donc ça fait aussi du poids et des choses ensuite qu'il faut manipuler quand vous sautez et quand vous avez atterri.
Oui, exactement. C'est quelque chose, le saut en parachute, c'est un vecteur qui est très très important chez nous parce qu'on peut s'insérer dans facilement en toute discrétion. Ensuite, en termes de matériel, comme vous le dites, on peut monter facilement jusqu'à 160, 170 kilos tout équipé. Donc voilà, il faut pouvoir le supporter. Et après, au niveau de la température, c'est des indications qui me font assez sourire parce que malgré tout, quand on est dans un avion et qu'on saute en parachute, pardon, on a du stress. Moi, j'ai à peu près, on va dire, 600 sauts, donc c'est pas énorme, mais c'est pas, j'en suis pas à mon premier saut. Mais quoi qu'il arrive, on a toujours un petit peu ce stress qui nous fait, c'est du bon stress qui nous et on est focus en fait sur notre mission. Et grâce à ça, il a beau faire moins 10, moins 15 dehors, au moment où on sort, en fait, on s'en rend même pas compte. On est tellement concentré sur notre mission et sur notre saut que on s'en rend pas compte. Mais une fois que la voile est ouverte et que pendant plusieurs minutes, on navigue pour arriver sur notre bon point, oui, là, on se rend compte qu'il fait froid, c'est vrai. On a les mains qui sont un petit peu engourdies. Et une fois arrivé au sol, très vite, oui, on se rend compte que voilà, la température est compliquée, mais pendant le saut, réellement, on ne s'en soucie pas.
Alors sur la plongée maintenant, parce que c'est peut-être ce qui fait votre spécificité chez les marins, c'est de travailler dans ce domaine maritime. Là, c'est aussi pour des approches discrètes et puis des opérations. Comment est-ce que vous vous entraînez pour la plongée? Ça suppose un matériel évidemment spécifique. Il y a les questions aussi de palier à maîtriser. Donc c'est-à-dire qu'il y a à la fois la mission à effectuer et puis tout l'environnement matériel de protection également qu'il faut avoir à l'esprit. On parlait du stress tout à l'heure, mais là, ça en fait partie aussi dans la gestion du stress et dans la gestion de la nervosité ou des conditions qui peuvent vous entourer.
Oui, complètement. Alors moi, je tiens à préciser, c'est que je ne suis pas nageur de combat. On peut être commando marine et force spéciale sans être nageur de combat. C'est une qualité en plus qu'ont les nageurs de combat, c'est-à-dire de pouvoir réaliser des actions subaquatiques en toute discrétion. Ensuite, au niveau de toutes ces informations, je suis navré, mais c'est des informations qui sont voilà, qui sont que je ne peux pas
Qu'on ne peut pas
divulguer.
donner, voilà.
Oui, voilà. Et par contre, on s'entraîne. Tout marin, tout force spéciale de la Marine nationale peut un jour être plongeur de bord, ça s'appelle. Et donc là, on est plongeur et on peut réaliser des missions de vérification, de recherche, de sécurité. Mais pas au niveau des nageurs de combat. Alors oui, c'est quelque chose qui est. Aujourd'hui, on s'entraîne minimum. Les plongeurs s'entraînent au minimum, je dirais, une fois par semaine, de jour comme de nuit, à la plongée pour garder le niveau requis. Et oui, le matériel est complètement. On est en autonomie totale, c'est-à-dire que les gars ont leur propre matériel. Voilà, c'est quelque chose de très pointilleux, la plongée. Faut pas faire n'importe quoi. Et oui, en termes de palier, par exemple, quand on descend à 15, 20, peut-être 30 mètres pendant peut-être 20 minutes, oui, on ne peut pas remonter tout de suite à la surface. Il faut respecter ces paliers. Et du coup, voilà, il faut avoir une capacité à anticiper les problèmes et une capacité à réfléchir même quand on est à 30 mètres. Sous les mers où il fait froid et voilà, il faut pas oublier qu'on a un travail même sur la remontée et on peut pas remonter directement parce que là on va directement à l'accident.
Alors, vous évoquez également l'orientation. Il y a d'ailleurs une très belle photo où on voit, enfin, pas une photo, un dessin. Parce que vous avez un très bon illustrateur, pour cet ouvrage. Donc, on voit une très belle illustration, de trois soldats qui se repèrent, grâce aux étoiles. Ça fait partie aussi de l'apprentissage dans votre formation de savoir se repérer, sans GPS pour savoir exactement où il faut aller.
Oui, totalement. J'ai eu la chance d'avoir un père militaire, comme je vous ai dit, et souvent il me posait la question, Matt, Où est-ce qu'il est le nord, où est-ce qu'il est le sud, où est-ce que quand on marchait, mon père est chasseur, je l'accompagnais souvent et voilà, il me donnait plein de petites techniques qu'on peut voir quand on marche en forêt. Le sens de l'orientation, c'est quelque chose que pas beaucoup de personnes n'ont, mais en fait, il me demandait à tout moment où est-ce qu'elle est la maison. En fait, il faut savoir se repérer. C'est très important. Et ça, on peut l'apprendre assez facilement en s'exerçant, et notamment, moi j'ai eu la chance de le faire pendant mes années de lycée, et on faisait des courses d'orientation, tout simplement. C'est quelque chose d'excellent pour apprendre à, bah, voilà, à lire une carte, à s'orienter et avoir toujours ce petit stress du chrono qui tourne pour ne pas non plus prendre totalement son temps, mais l'orientation, il y a toujours une notion de comment dire, il faut aller assez vite parce que sinon le temps passe et puis il faut que ça soit quelque chose de, faut que ça soit un réflexe. Et pour ça, ben voilà, c'est un entraînement de tous les jours. Même encore maintenant, je m'amuse à demander à mes enfants où est-ce qu'il est le nord, où est-ce qu'il est le sud. Voilà, c'est quelque chose. Il faut savoir le faire. Il faut avoir cette notion. C'est très important.
Quel conseil ou indication pourriez-vous donner à des lycéens ou des étudiants qui nous écoutent et qui sont intéressés par les forces spéciales sur les qualités requises et sur le parcours à suivre pour pouvoir postuler?
D'accord. Alors les qualités, il faut il faut se donner des objectifs. En un, c'est vraiment ça. On peut pas aller de quelqu'un, on peut pas aller à un endroit et demander à quelqu'un, moi j'ai envie de faire ça, mais ne pas savoir réellement ce que c'est, où ça va m'amener et comment je vais devoir m'y prendre pour y arriver. Ensuite, en termes de vraiment de personnalité, il faut être soi-même. Il faut pas se mentir. Il faut savoir accepter l'échec. Ça, c'est très important. Quoi qu'il arrive, on sera un jeune qui postule dans les forces spéciales sera face à l'échec, quoi qu'il arrive un jour ou l'autre. Et s'il a du mal à l'accepter, à le digérer, c'est bête, hein, mais il pourra jamais passer les mailles du filet. Il faut vraiment accepter le fait qu'on ait échoué à cette épreuve et faut en tirer les points positifs et tout de suite oublier tout le reste, tout le négatif. Voilà, en quelques mots, comment être pour arriver chez nous.
Bien, merci beaucoup d'avoir évoqué pour Conflit ces éléments des forces spéciales. Ça permettra, je l'espère, à nos auditeurs de mieux comprendre comment vous fonctionnez, comment vous entraînez aussi, et puis votre rôle également au sein de l'ensemble des forces militaires. Je rappelle l'ouvrage que vous avez publié aux éditions Pierre de Taillac, Objectif Force Spéciale, où nos auditeurs peuvent retrouver beaucoup d'autres éléments et conseils pour intégrer ses forces et comme à chaque fois, les références de l'ouvrage sont à retrouver sur le site de Conflit, revueconflit.com. Merci beaucoup pour votre fidélité à nos émissions. Je vous rappelle que vous retrouvez également sur notre site internet notre numéro actuellement en kiosque consacré à la mer de Chine et puis notre hors-série qui est consacrée à l'armée de terre. Après l'armée de l'air l'année dernière, nous faisons un hors-série sur l'armée de terre. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.